Un après-midi d'été, je suis occupée à manipuler des bouts de ficelle. J'aimerais faire d'aussi beaux nœuds que mon ami Pierre Timan, passé maître dans cet art. Alors je me suis installée sur la première marche de l'escalier pour me délier les mains. Je commence à obtenir quelques résultats quand soudain une ombre énorme bouge complètement la porte ouverte. Est-ce que ce sont des manières? C'est sûrement un étranger. Quelqu'un de notre compagnie n'entrerait jamais ainsi, sans demander dès le dehors s'il y a quelqu'un. La plus commune visite que l'on fait à la campagne obéit à un cérémonial auprès duquel les manières bourgeoises ne sont que des grimaces de singes savants. Vous n'êtes pas invité, on ne vous attend pas. Vous commencez par vous arrêter à la barrière de la cour pour donner aux chiens le temps d'aboyer et d'annoncer votre venue. Vous entrez dans la cour. Vous avancez lentement au large des fenêtres afin que l'on puisse vous reconnaître à travers les carreaux. Lentement, pour donner le temps à la maîtresse de mettre de l'ordre dans son logis. Si elle n'est pas là, ou s'il lui faut 10 minutes de préparation, le maître sort. Vous emmène voir ses animaux, son berger, en attendant qu'elle s'annonce. Si lui non plus n'est pas présent, si la porte est fermée, il ne vous reste plus qu'à repasser la barrière sans commettre l'indiscrétion de regarder autour de vous. C'est rare, une porte fermée. La fermer quand il y a quelqu'un à l'intérieur, c'est faire offense à ceux qui passent. Aussi les cale-t-on avec une grosse pierre pour éviter qu'elle ne se ferme sous l'effet d'un coup de vent. Donc vous êtes devant la porte ouverte, vous toussez 2 ou 3 fois et vous demandez s'il y a quelqu'un. La voix de femme vous dit d'entrer. Vous faites quelques pas dans le couloir de terre battue, vous vous arrêtez de nouveau devant la porte de la salle cuisine. Le maître est assis à la table. Accoudé au vaisselier, la maîtresse vous sourit. Entrez donc tout à fait, dit-elle. Me voilà arrivé, dites-vous. Et de parler du temps qu'il fait. Le maître vous invite à poser votre poids sur le banc. Vous refusez vigoureusement 2 fois pour obéir à la 3e injonction. La conversation se poursuit sur les dernières nouvelles du bourg. Cependant, la maîtresse a sorti les verres, les essuie ostensiblement avec un chiffon qui garde encore le pli du fer. Vous faites semblant de ne rien voir jusqu'au moment où, par miracle, les bouteilles apparaissent. Alors vous soulevez à demi vos fesses du banc, déclarant que vous ne voulez déranger personne et que d'ailleurs vous ne buvez jamais sans soif. On vous assure que votre sobriété est connue, mais qu'on ne parle pas bien quand l'intérieur est sec. Et l'on entend crisser les bouchons. Après quelques hauts cris, vous acceptez de trinquer. On reprend à fond toutes les conversations précédentes qui sont ponctuées de vos protestations à mesure que la table se charge de victuailles et que l'odeur du café embaume l'environnement. La maîtresse ne s'assoit jamais quand elle traite des visiteurs. Non point comme on pourrait le croire parce qu'elle est esclave, mais précisément parce qu'elle est la maîtresse. Qu'elle doit dominer son chantier pour avoir l'œil à tout. Une bonne demi-heure se passe avant que vous n'osiez timidement dire pourquoi vous êtes venu. Vos hôtes le savent depuis le moment où ils vous ont reconnu à la barrière de la cour. Vous voilà exaucé, reconduit par le maître lui-même après que vous aurez offert à la maîtresse de maison la botte de poireaux que mérite sa maison et sa nourriture. Vous êtes enchanté, eux aussi. Vous avez donné votre temps et quelques nouvelles qu'ils ne connaissent pas. Ils vous ont reçu avec les égards que l'on doit à un homme qui est plus ou moins cousin du seul fait qu'il appartient de la même paroisse.
Les gens qui étaient à présent dans la rue se seraient rendus à l'office du soir, moins solennel, plus intime, marchant d'un pas digne d'un réverbère à l'autre, parmi l'obscurité, aux ombres dentelées. Nous les aurions croisés tranquillement, et reconnaissant des mètres à l'avance, sans savoir ou même s'attarder à réfléchir quand, comment et pourquoi nous les avions reconnus. Non pas à la silhouette, ni même à la voix, ce n'était pas nécessaire. La présence, l'atmosphère particulière, peut-être, Peut-être la simple juxtaposition, cette entité vivante à tel point, à tel moment, à tel jour, car c'est tout ce qu'on a besoin de reconnaître des gens parmi lesquels on a vécu toute sa vie. S'écartant du ciment sur la bordure du gazon en les croisant, s'adressant à eux par leur nom, sans doute échangeant une phrase, quelques mots, puis continuant notre chemin, reprenant le ciment. Mais ce soir, la rue était déserte. Les maisons elles-mêmes semblaient closes, vigilantes, attentives, comme les gens qui y habitaient, et qui, en cette douce nuit de mai, auraient été assis sur leur galerie obscure pendant quelques instants après le dîner, dans leur fauteuil à bascule ou à balançoire, en train de bavarder paisiblement, entre eux, ou peut-être de converser d'une galerie à l'autre, quand les maisons étaient assez rapprochées. You think I need a side, baby? You know me, baby. Think I'd be down with that on your knees? I wouldn't do that. I'll tell you you're all what you want. Et ce soir, nous avons croisé qu'un seul homme, et qui ne se promenait pas, juste à l'intérieur de la porte, sur le devant d'une petite maison proprette, grande comme une boîte à chaussures, construite l'année dernière entre deux autres maisons déjà assez proches l'une de l'autre pour qu'on puisse entendre mutuellement la chasse d'eau des cabinets. Mon oncle m'avait expliqué ça. Quand on est né, qu'on a été élevé et qu'on a vécu toute sa vie dans un endroit où on n'entend que les hiboux la nuit et les coqs à l'aube. Et par les journées humides, quand les bruits portent au loin, entendre votre plus proche voisin en train de couper du bois à 2000 de là, on aime bien habiter quelque part où l'on puisse entendre et sentir les gens d'à côté à toutes les fois qu'ils tirent la chasse d'eau ou qu'ils ouvrent votre boîte de saumon ou de soupe.
Le tournant final, avec toujours le numéro 3, Sérieux
dans ce
professeur Chop. Whitmore continue de se rapprocher, mais il est maintenant à 10h. Devant Sarkana, Marie Trezy à la corde, il y a également le numéro 14 de ses Castle Creek, avec au sein du peloton le numéro 5 de Fuel, avec Scenic Shop ou encore la favorite, le numéro 11, Robini, qui semble déjà en courage. La dernière ligne droite. Avec le décor, le numéro 3, Serious Mood qui a l'avantage. Vidago, le numéro 2 qui vient attaquer à son extérieur devant. Le débutant, c'est Quick Boy attaqué à son tour par le numéro 9, Marie Trezy, alors que Asgard refait du terrain à l'extérieur. Mais devant, Serious Mood, le numéro 3, va maintenant se dégager du vol au temps pour s'imposer très fort et ainsi ouvrir son palmarès. Serious Mood associé à Civil Boy qui s'impose. Deuxième place pour le 9, Marie Trezy, son troisième, très certainement pour le 13, Quick Boy.
Thank you. chance.
Ouais, ça, c'est, il n'est pas toujours régulier, mais par contre, s'il est bien, il fait des choses intéressantes.
Oui, voilà. Voilà.
Merci, Johan, bravo.
L'horizon est perdu par le nez. L'horizon est perdu par le nez. Sait-on bien ça ? L'impitoyable jour nous le réaffirme. Le trou au fond du sac où la tribu s'empile. Reviens. Avec la nausée du matin devant les abattoirs. Et que de couloirs franchement pestilentiels où la viande affamée des se jette sur nous. À travers la trachée autant que par le tube. Les oreilles de porc et les têtes de veau des caisses de fer, avec leur puanteur de membrane, sont des morceaux de corps parmi les nôtres. Et c'est pour ça qu'elles résonnent tellement en malaise jusqu'à perforer notre estomac, nous plomber de migraines. Ces vidanges mal explicitées de caoutchouc amolli, de courroies détendues et défaites tombent en grêle d'endroits plus précis. Qu'on croit, d'une vacuité malsaine avant la pensée, relant de soi-même et du lieu ensemble, qui n'est que dans son retournement. Le gras double de notre panse au blanc en velours se trouve en même temps qu'on voit la caillette mauve aux étals.
Je mets de côté ou je mets ensemble. J'ai joué un jour avec...
Ensemble,
on
continuera chez son autre vitesse, l'un à l'autre les axes de cette forêt.
forêt pour coller leurs bandouches de métal sur le bas-flanc. Le bas-flanc de meubles en train de coller.
J'ai vu, j'ai trouvé beaucoup de choses agréables.
Torse nu, en train d'être collé.
J'ai vu, j'ai trouvé beaucoup de choses agréables.
De la porte pend sur le bas, tout en longueur, la porte bande plate et au roulement doux faisant monter lentement l'opinière creuse de cieux crème orangée.
Où je vais,
et enfin sur la gauche, la scie dégauchisseuse et raboteuse, hurlante, derrière laquelle on voyait la plupart du temps la peau aérée. Attentif.
Je vais de côté.
Rendu muet par le vacarme, noyé dans une pétarade époustouflante d'énormes copeaux.
Je vais ensemble.
Torse nu, qui s'accroche pour lui et formait en retombant des péridons de porte ouverte. Vision de bois. Vision de bois. Torse nu, torse nu.
Me suis senti à peu près bien, et parfois parfaitement bien.
C'est sur cet état
et parfois parfaitement.
Ou à l'aide d'un ciseau sur une console moulée. Ou en perçant des trous de tourillon à la chignole dans un tiroir.
J'ai joué.
Que je reçus des bribes de généalogie. En arrachant le papier collé restant après les plaquages. Que je vis des morceaux de pays. Des morceaux de pays.
J'ai joué un jour. J'ai joué avec de la crème. Un jour, j'ai joué avec de la crème. Un jour. Avec de la crème. Lourd. M. Lourd.